RFI, 8h à Paris, 7h en temps universel. 10h à Damas, bonjour Gaëtan Planet.
Ah bonjour Julien, bonjour à tous.
À la une, ce reportage exclusif de RFI et de Radio France en Syrie.
En rencontre avec trois frères et sœurs français dans un orphelinat de Damas. Des enfants dont les parents djihadistes ont été tués en 2019. Mais la directrice de l'orphelinat assure qu'aucun contact n'a pu être établi avec Paris. Elle espère que le changement de régime en Syrie pourra faciliter leur rapatriement. Dans ce journal également, un deuil national en France, en mémoire des victimes du cyclone Chido à Mayotte. La France qui attend toujours la composition de son nouveau gouvernement. En Allemagne, l'AFD a prévu de manifester ce soir à Magdebourg après l'attaque à la voiture bélier de vendredi sur le marché de Noël de la ville. Et puis reportage à suivre près de Rabat au Maroc dans une usine qui prépare les premiers tests PCR 100% africains pour détecter le virus du Mpox.
Et on commence donc avec ce reportage exclusif de RFI et Radio France en Syrie.
Nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Boris Vichit ont retrouvé la trace de trois enfants français issus d'une même fratrie. Depuis maintenant 5 ans, ils vivent dans un orphelinat de Damas. Leurs parents djihadistes ont été tués en 2019 dans des bombardements de la coalition internationale contre l'État islamique. L'orphelinat qui les accueille espère qu'avec le changement de régime en Syrie, ils seront rapidement rapatriés en France. Reportage.
Sur l'aire de jeu de cet orphelinat de Damas, une fillette enjouée, toute de rose vêtue, se jette dans les bras de la directrice. Cette enfant, dont nous tairons le nom, est française, elle a 6 ans et est arrivée ici en 2019 avec son frère et sa sœur, âgés aujourd'hui de 11 et 12 ans. Ils ont été amenés par les services de renseignement syriens, raconte la directrice de l'orphelinat. Appelons-la Sarah.
Les enfants sont arrivés ici avec un document des services de renseignement. Leur nom et celui de leur mère étaient faux. Ce sont les enfants qui m'ont raconté que leur mère était morte, qu'il y avait eu des bombardements, beaucoup de morts. Leur père aussi est mort.
Les parents des enfants, des djihadistes français, ont été tués lors des opérations de la coalition internationale contre l'État islamique dans la région de Deir ez-Zor. Avant de mourir en 2019, la mère les confie à une amie qui les emmène avec elle. Mais ils finissent par être arrêtés par les services de renseignement syriens qui les confient à l'orphelinat à Damas. La directrice tente alors de prendre contact avec leur famille en France, mais sous le régime de Bachar el-Assad, la censure est totale.
La mère, avant de mourir, avait des contacts avec la tante des enfants. Mais je n'avais pas le droit d'en avoir. On m'a fait signer un papier dans ce sens. Si je disais quoi que ce soit, j'aurais atterri à la prison de Seydnaya. Le seul contact avec la famille des enfants qui m'était autorisé, c'était à travers le Croissant Rouge. C'était risqué. Mais on a réussi à organiser des appels vidéo entre les enfants et leur tante tous les jeudis.
La directrice de l'orphelinat s'est fait un devoir de maintenir ce lien entre les enfants et leur tante qui se bat pour les rapatrier en France. Mais elle dit n'avoir eu aucun contact avec les autorités françaises durant ces 5 dernières années. Avec le changement de régime en Syrie, les choses vont peut-être bouger, espère une autre responsable de l'orphelinat que nous appellerons Zeynab.
J'espère qu'on va prendre soin d'eux maintenant, qu'ils pourront rejoindre leur tante. La France doit s'en occuper. Les enfants vivent dans un bon environnement ici. Ils sont loin du terrorisme. Leur éducation est très bonne. Ils apprennent l'anglais. Quand ils retourneront en France, ils seront comme les autres enfants. Il n'y aura pas de différence. La France ne doit pas laisser ses enfants dans un pays qui n'est pas le leur.
La France a toujours été réticente à rapatrier les femmes djihadistes et leurs enfants détenus en Syrie. Elle avait en revanche promis de s'occuper des orphelins. Muriel Paradon, Boris Vichit, de retour de Damas, RFI.
Un reportage exclusif à retrouver sur notre site internet rfi.fr. Et la Syrie est un pays pour tous, assure le nouvel homme fort du pays, Abou Mohamed al-Joulani, le chef du groupe Ayat Tahrir al-Sham, celui qui a mené la coalition rebelle conduisant au renversement du régime de Bachar al-Assad il y a maintenant 2 semaines. Il assure que son administration travaille à la protection des minorités et promet que toutes les armes en Syrie passeront sous le contrôle de l'État. Hier, il a rencontré le ministre turc des Affaires étrangères à Canfidan qui a plaidé pour la dissolution des groupes armés kurdes de Syrie. Et puis aujourd'hui, c'est au tour du chef de la diplomatie jordanienne de se rendre en Syrie pour y rencontrer al-Joulani ainsi que d'autres responsables du pays. La Corée du Sud l'affirme ce matin, près de 1100 soldats nord-coréens partis combattre en Ukraine aux côtés des forces russes ont été tués ou blessés. Un bilan que ne confirme évidemment pas le Kremlin, qui n'a pas non plus confirmé cette aide militaire humaine de la part de Pyongyang. Mais selon Séoul, de nouveaux envois de militaires nord-coréens seraient en préparation.
RFI 8h05 à Paris, dans moins de 3 heures maintenant, une minute de silence sera observée. dans tous les services publics de France.
Et la population entière sera invitée à faire de même à l'occasion de cette journée de deuil national décrétée par le président français Emmanuel Macron en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte. 35 morts selon le dernier bilan, toujours très provisoire. Mais un deuil national, pourquoi faire? Est-ce vraiment utile? Lou Ekal est allé poser la question aux Mahorais installés en métropole.
Des drapeaux en berne et une minute de silence. L'hommage est nécessaire pour Faël, étudiant mahorais qui habite à Paris.
Symboliquement, c'est quelque chose d'important pour les mahorais, pour tous ceux qui ont subi surtout cette violence-là du cyclone. Il ne faut pas du tout les oublier, que ce soit à Mayotte, partout en France, même à l'étranger. Il faut qu'on connaisse que ce jour-là, Chido a fait un massacre à Mayotte.
Karim, lui, est ingénieur en mathématiques appliquées. Et il partage l'avis de Faël.
C'est important pour les victimes, sentir qu'on les a pas oubliés, qu'on pense à eux et qu'on est quand même là. Et il ne faut pas aussi oublier cette date et ce moment, en fait, parce que c'est quand même quelque chose d'historique et il faudrait qu'à l'avenir, ça ne puisse plus se reproduire.
Asma Faradji préside une association d'étudiants mahorais. Pour elle, ce jour de deuil...
C'est un petit pas, mais ça ne suffira pas. Mayotte est détruite à 90%. Donc ça mettra des années à se relever. Il nous faut plus d'aide. On aura besoin d'experts pour rétablir l'électricité, pour remettre les maisons sur pied. Un simple deuil national ne suffira pas.
À 11h, comme Karim, Faël et de nombreux Français, elle se recueillera pendant une minute en hommage aux victimes de Chido.
Une minute de silence que devraient aussi a priori respecter les ministres, oui, mais lesquels?
Et les actuels ministres démissionnaires ou ceux qui vont les remplacer? On ne sait pas, pour la simple et bonne raison qu'on ignore toujours la composition du nouveau gouvernement. Le Premier ministre François Bayrou avait promis que ce serait pour avant Noël. Eh bien, l'horloge tourne, il reste aujourd'hui et demain. Hier soir, il a pu en discuter par téléphone, puis en face à face avec le président français. Mais l'annonce tant attendue n'est pas tombée, Aurélien Devernois.
Selon les services de la présidence et de la primature, rien d'anormal. Des ultimes réglages sont nécessaires, ainsi que la traditionnelle vérification des profils par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, l'organe destiné à s'assurer que les candidats au poste ministériel n'ont pas de cadavres dans le placard. Mais les échos venus des différents partis de l'alliance gouvernementale avancent d'autres raisons. Deux postes ministériels, l'économie et les affaires étrangères, étaient encore en discussion, tout comme la nomination au gouvernement du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, vu d'un très mauvais œil par le Rassemblement national. Les sénateurs de droite demandaient également encore des gages ce week-end, notamment sur le dossier de la fiscalité, et le patron de la droite républicaine, Laurent Wauquiez, qui a renoncé à entrer au gouvernement, doit de nouveau réunir ses troupes ce matin. Mais le temps presse pour François Bayrou, qui a promis de nommer son équipe avant Noël, alors ce lundi, peut-être, ce serait une preuve de mépris, selon la députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, alors que le pays doit observer une journée de deuil en mémoire des victimes du cyclone Chido qui a ravagé le département d'outre-mer.
Aurélien Devernois.
Chaque pierre sera soulevée, promet la ministre allemande de l'Intérieur.
Le gouvernement s'engage à ce qu'une enquête rapide et minutieuse soit menée pour mettre à jour d'éventuelles erreurs de la part des autorités après l'attaque à la voiture Bélier de vendredi soir sur le marché de Noël de Magdebourg. De Bourg, 5 personnes ont été tuées, près de 200 autres blessées. Le suspect, un médecin saoudien de 50 ans, a été arrêté. Ce drame à quelques semaines des législatives anticipées tombe mal pour le gouvernement du chancelier Olaf Scholz, déjà fragilisé. L'extrême droite, elle, espère en tirer profit. Correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Warum, pourquoi? Dans un éditorial hier, le journal Bild am Sonntag s'interrogeait. Pourquoi les autorités allemandes n'ont-elles pas réagi à temps alors que l'auteur de l'attaque, après un procès en 2013, des informations venant de son pays d'origine, l'Arabie Saoudite, l'an dernier, ou tout simplement ses nombreuses publications sur le net, pouvaient laisser penser que sa frustration contre les autorités allemandes pourrait déboucher sur des actes violents. Autant de questions auxquelles le gouvernement promet de répondre rapidement et de façon détaillée. La ministre de l'Intérieur et les responsables des services seront auditionnés dans une semaine, malgré la trêve des confiseurs, par une commission parlementaire. L'attaque de Magdebourg peut changer le cours de la campagne électorale, alors que le chancelier Scholz et son parti en difficulté ne décollent pas dans les sondages. Les autres partis ne jettent pas d'huile sur le feu, conscients du côté explosif de cette thématique, sauf le parti d'extrême droite AfD à 20%, en deuxième position dans les sondages. L'Alternative pour l'Allemagne dénonce le laxisme des autorités et leurs erreurs et manifestera ce soir à Magdebourg. Pascal Thibault, Berlin RFI.
C'est un vieux serpent de mer de l'actualité chilienne, la réforme du système de retraite du pays.
10 ans de tentatives, 10 ans d'échecs, ça n'a pas empêché le président Gabriel Boric d'en faire sa priorité. Les débats durent depuis 2 ans maintenant au Parlement, alors que 72% des pensions sont inférieures au salaire minimum. Les négociations entrent dans leur phase finale au Sénat, mais les organisations sociales sont inquiètes. À Santiago, Naila de Rouanet.
L'un des problèmes majeurs des retraites au Chili, c'est qu'elles sont très en deçà des rémunérations que percevaient les travailleurs pendant leur vie active. Résultat, beaucoup de retraités continuent de travailler après l'âge légal de départ à la retraite. La réforme promise par le président chilien est donc très attendue. Gabriel Boric veut notamment limiter le rôle des AFP, les administrateurs de fonds de pension, des entités privées jugées responsables par beaucoup de la précarisation des retraités. Il y a 2 ans, quand le gouvernement a présenté sa réforme, l'idée était alors que les employeurs, qui aujourd'hui ne cotisent aucunement, participent à hauteur de 6% aux retraites et que ce pourcentage aille à un fonds solidaire pour augmenter le montant des pensions. Mais face à la levée de boucliers dans l'opposition, ce pourcentage a été morcelé. Finalement, une partie pourrait être redirigée vers ces fameux AFP. Pour Luis Messina, porte-parole d'une organisation qui veut en finir avec ses administrateurs privés, ce serait la pire trahison de la part du gouvernement.
Le gouvernement a manqué de conviction et n'a pas eu le courage d'affronter la droite.
L'organisation considère que si la réforme est approuvée en l'état, ça ne ferait que consolider le modèle actuel et les AFP, laissant les retraités chiliens dans la même situation de précarité. Naïla Derouane, Santiago, RFI.
Au Mali, Issa Koundjim doit être jugé aujourd'hui pour offense commise publiquement envers un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information. Sur le plateau de Joliba TV, cette figure politico-médiatique avait mis en doute la crédibilité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso.
Bientôt un test PCR 100% africain pour détecter le Mpox.
Recommandé par l'Agence sanitaire de l'Union africaine, l'Africa CDC, alors que l'épidémie continue de se propager sur le continent. Ce test, il a été mis au point et produit au Maroc. Les premiers kits de détection seront livrés d'ici la fin du mois. Mathias Reynal s'est rendu dans les locaux de la start-up qui fabrique le test à quelques kilomètres de la capitale.
Moldiag a installé son site de production à une vingtaine de kilomètres de Rabat. Avant de pénétrer dans la zone où sont élaborés les tests PCR Mpox et pour éviter toute contamination,
on va porter des équipements de protection individuelle.
Abdelhadi Moumen est le directeur du centre de kit de diagnostic de la Fondation Massir, un centre de recherche qui dépend de l'université Mohamed VI Polytechnique et qui a développé le test. Il est également le fondateur de la start-up Moldiag qui assure la production.
C'est une fierté parce que nous sommes les premiers en Afrique à développer et à commercialiser un kit 100% africain, je dirais.
Le test a obtenu l'approbation des autorités sanitaires congolaises. Les premiers kits seront bientôt envoyés en RDC, au Burundi et en Ouganda.
On est en train de préparer leur commande et on va pouvoir les livrer avant la fin de cette année-là. On a une capacité de 6 millions de tests par mois.
Nawal Sharaibi est la directrice générale de la Fondation Massir, également directrice de Moldiag.
Notre ambition, c'est de continuer dans cette voie et de réussir à mettre au point des kits qui vont aujourd'hui répondre aux attentes, aux besoins du continent africain. Parce que malheureusement, il y a certaines maladies qui ne touchent que le continent africain et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises au sérieux.
L'Agence sanitaire de l'Union africaine a salué la mise au point de ce test Mpox marocain. Une avancée majeure assure l'organisation vers l'autosuffisance des systèmes de santé publique africains. Mathias Reynal, de retour de Tamesna, RFI.
Enfin Gaëtan, en Turquie, la détresse des agriculteurs.
Oui, si l'inflation frappe tous les secteurs, ce sont peut-être eux qui la subissent le plus violemment, confrontés à une hausse sans fin de leurs coûts de production. À Konya, au cœur de l'Anatolie agricole, notre correspondante Anand Lauer a rencontré Fatih, un agriculteur éleveur-cultivateur qui porte un regard sombre sur l'avenir de son métier. Reportage.
C'est un jour triste pour Fatih Chuk, 46 ans, dont 34, passé à travailler au milieu des bêtes et des champs de l'exploitation familiale. Aujourd'hui, il envoie une vache laitière à l'abattoir.
Pour qu'une vache me rapporte plus que ce qu'elle me coûte à la nourrir, elle doit produire au moins 27 litres de lait par jour. En dessous, je ne rentre pas dans mes coûts. Donc régulièrement, je dois me séparer d'une bête. Avant, ça ne m'arrivait jamais. C'est comme ça depuis 3 ans.
3 ans que l'inflation mine le pouvoir d'achat des Turcs et les revenus des producteurs. Cet automne, les prix des intrants agricoles, les engrais, les pesticides, les semences, l'essence, ont encore augmenté de 32% sur un an. Face à cette inflation, qui est avant tout le résultat des politiques économiques menées jusqu'à l'année dernière, beaucoup de fermiers comme Fatih se sentent abandonnés.
Au lieu de nous aider, on nous enfonce.
Le prix de la viande augmente, le gouvernement encourage les importations pour faire baisser les prix. Le lait augmente, on importe du lait en poudre de je ne sais quel pays. On va finir dépendant de l'étranger. Être agriculteur en Turquie, c'est travailler en ayant faim.
Un jour, se dit Fatih, ce n'est pas ses vaches, mais son exploitation qu'il devra vendre. Son fils de 16 ans ne veut pas prendre la relève. Un Andlauer, de retour de Konya, RFI.
Il est 8h15 à Paris.
Merci Gaëtan Planet. RFI Matin, la suite, c'est la revue de presse. Avec vous Théo Renaudon, le tour de la presse internationale est à la une, 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Une diplomatie européenne trop lente, relève le site Politico.
Oui, le site donne la parole à Julien Barnès-Dassé, directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord au Conseil européen des relations étrangères. Dans sa tribune, il fustige une hésitation européenne qui commence à se faire sentir en Syrie, je cite. Alors que certains diplomates se rendent à Damas, la vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, a déjà déclaré que l'aide à la Syrie dépendra toujours des progrès réalisés sur le terrain. Une prudence de trop, selon le chercheur, pour qui la Syrie offre aujourd'hui une rare opportunité. Pour Julien Barnès-Dassé, je cite, « L'Europe doit faire une offre audacieuse à ce pays et le faire maintenant. Elle doit mettre en place un ensemble de mesures importantes pour inciter les nouveaux dirigeants militaires du pays à continuer d'évoluer vers la modération. » Dans cette tribune à Politico, il rappelle que les enjeux sont grands. Il avance, je cite, « qu'une transition réussie aidera les Syriens, mais constitue également le seul moyen de répondre à l'ensemble de ses intérêts, comme consolider la gouvernance démocratique, garantir des conditions durables pour permettre le retour d'un nombre important de réfugiés syriens et diluer l'influence iranienne et russe dans le pays.
Aux États-Unis, le Boston Globe s'inquiète de l'augmentation de la consommation de drogue dans les prisons.
Un fléau national, Pennsylvanie, Floride, New Jersey, le Boston Globe s'intéresse là aux prisons du Massachusetts. Dans le viseur, le K2, une sorte de cannabis ultra puissant. Le journal en fait d'abord la description. C'est un liquide qui peut être vaporisé sur du papier, une lettre, une carte de vœux, découpée en carré de 2,5 cm. Papier qui peut être fumé ou ingéré. Le Boston Globe interroge des prisonniers comme Iran, qui a reçu sa première dose pour son anniversaire. Pour lui, c'était, je cite, une façon de m'évader, de quitter l'état monotone dans lequel je me trouvais. Je ne savais pas que c'était le début d'un tourbillon d'addiction. Résultat de ce fléau, note le journal, le système pénitentiaire de l'État fait face à un grand nombre d'urgences médicales parmi les détenus, d'overdoses, d'agressions contre le personnel en raison des réseaux de distribution de drogue infiltrés dans les prisons. Le Boston Globe fustige la stratégie des autorités américaines qui consiste, je cite, à se concentrer uniquement sur l'offre, alors qu'il faudrait se concentrer sur la demande et essayer de traiter des personnes qui sont si désespérées qu'elles feraient n'importe quoi pour leur drogue de prédilection.
Enfin Théo, la presse française qui documente petit à petit les ravages du cyclone Chido à Mayotte.
Oui, 10 jours après, l'aide commence seulement à arriver dans les quartiers les plus déshérités où le nombre de victimes reste inconnu, observe le journal français Le Monde, qui se pose la même question que tous les habitants de l'archipel. Où sont passés les gens? Les reporters sur place écrivent que personne n'est allé dans les bidonvilles. Les services de l'État ont simplement fait des survols en hélicoptère, persuadés que les corps gisent sous des tôles. De très nombreux habitants n'ont pas encore vu l'ombre d'un secouriste dans leur quartier. Et quand le journal suit un camion de gendarmes qui se gare dans des zones sinistrées, il décrit la scène. Dans la file, ils sont nombreux à n'avoir rien avalé de la journée. Les militaires s'en aperçoivent et décident d'improviser pour les seuls enfants une distribution de madeleines, de pommes et de biscuits. Les gamins font la queue, disciplinés, ils sont affamés.
Merci Théo Renaudon. Et dans notre reportage international ce matin, d'où viennent les sapins de Noël, si nombreux chaque année à orner les maisons? On en vend 25 à 30 millions tous les ans aux États-Unis, 60 millions en Europe, et parmi les principaux exportateurs, On retrouve le Canada, près de 2,5 millions de sapins exportés en 2021, en provenance notamment du Québec. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, l'espèce emblématique de sapin du Québec, le baumier, est menacée, en difficulté car sensible aux variations de température. Pour les producteurs de sapins, il faut donc adapter constamment les méthodes de culture. Reportage dans une plantation québécoise avec Pascal Guéricola.
Ça va être important de le mettre dans l'eau, en arrivant, c'est...
Venus chercher leur sapin de Noël dans une plantation, ses clients écoutent les conseils pour éviter qu'il ne sèche et ne perde ses aiguilles.
Excellent, parce que ça a vraiment besoin d'eau, c'est la nature, et puis il va revenir comme au printemps.
Les acheteurs ne se doutent pas cependant des difficultés de culture que rencontre Junior Belleville, copropriétaire de Mon Beau Sapin. L'augmentation des températures nuit à ces arbres caractéristiques de Noël. Il pousse en rang serré dans une série de champs enneigés, non loin de la ville de Québec.
Le petit sapin, là, lors des deux premières années, a besoin de beaucoup de neige pour être isolé du froid. Dans le fond, on a de moins en moins de neige au Québec. Ensuite, les deux derniers hivers, on a eu des fortes pluies. Après ça, c'est suivi de grands froids. Le gel pousse les sapins en dehors du sol. Ici, on a un sapin mort là, qui a été implanté là, un an. Il n'y a pas assez de neige, il y a trop de pluie. C'est vraiment compliqué.
Pour éviter les pertes, Junior Belleville varie les espèces de sapins selon le sol. Il lui faut aussi installer des tuyaux souterrains et des fossés pour éviter que l'eau ne s'accumule. Les pluies hivernales, aujourd'hui plus fréquentes, ont tendance à faire pourrir les racines.
Ouais, on va passer à gauche. Ça, c'est les fortes pluies de cette semaine. On voit là, les grandes flaques. Alors, regarde ces sapins-là. Ils ont été plantés en même temps que les sapins en haut. Ils ont environ quoi? 2 pieds de moins? Ils ont de la difficulté avec les fortes pluies.
Certains producteurs de sapins doivent se détourner de la culture du baumier, considéré pourtant comme l'arbre caractéristique de Noël au Québec, parce que cette variété déteste les changements de température. Loïc d'Orangeville, professeur en écologie forestière à l'Université Laval, constate le déclin de ce sapin dans l'est du Canada.
C'est vraiment une espèce d'arbre qui est idéale pour la culture, mais là, les changements climatiques viennent un peu brouiller les cartes. On a des sécheresses de plus en plus fréquentes, donc ces sécheresses-là, ça impacte particulièrement le sapin parce qu'il y a besoin d'un climat assez constant. Et là, c'est de moins en moins ce qu'on retrouve et il est très vulnérable, très susceptible à des insectes, à des pathogènes, à des champignons et donc tout ça, ça l'affecte.
À entendre le chercheur, ce sapin va perdre sa position dominante dans les forêts canadiennes, laissant la place à des espèces qui apprécient davantage la hausse des températures. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Notre reportage international au Canada que vous retrouvez sur RFI.fr. 8h22 à Belgrade, on part en Serbie alors qu'hier des dizaines de milliers de manifestants marchaient contre la corruption dans les rues de la capitale. C'est un rapport d'Amnesty International qui lève le voile sur les pratiques de la police et des services de renseignement. L'État utiliserait des logiciels espions avancés et des outils d'analyse de données pour cibler illégalement des journalistes, des militants écologistes et d'autres individus dans le cadre d'une campagne de surveillance clandestine. Bonjour Laurent Rouy.
Bonjour.
Avec vous, avec nous depuis Belgrade pour en parler. Cette révélation fait suite à une affaire récente en Serbie.
En effet, tout part de la mésaventure, si je puis dire, d'un journaliste serbe. En février de cette année, le spécialiste de l'investigation, Slavisa Milanov, est arrêté sur la route par la police qui l'emmène au commissariat, soi-disant, pour un contrôle d'alcoolémie et d'utilisation de stupéfiants. Milanov a dû, à la demande des agents, leur confier son téléphone. En tout, diverses vérifications et interrogatoires durent 2h30. Après la récupération de son téléphone, Slavisa Milanov remarque des anomalies et contacte Amnesty International qui procède à une analyse approfondie de l'appareil.
Sait-on pourquoi Amnesty International ne publie cette information que maintenant ?
L'ONG n'a pas donné de réponse à cette question, mais elle signale d'autres cas d'infection de téléphones d'activistes par un logiciel espion inconnu nommé NoviSpy. Et ces autres cas sont plus récents. Notamment un activiste russe contre la guerre en Ukraine résidant en Serbie voit son téléphone piraté en octobre 2024. Des cas encore plus récents liés aux manifestations anticorruption qui agitent actuellement la société en Serbie indiquent que des activistes auraient eu leur téléphone infecté le mois dernier.
Alors Laurent, sait-on d'où vient ce logiciel espion ?
Il s'agirait d'un logiciel unique développé par les services secrets serbes, le BIA, à partir d'un autre logiciel israélien, celui-là acheté dans le cadre d'un programme d'aide à la lutte contre la criminalité organisée. Programme financé par les Nations Unies et par la Norvège. Bien évidemment, la loi serbe n'autorise pas la surveillance électronique des citoyens ordinaires et la révélation de l'information a provoqué une réaction de la Norvège qui a qualifié les informations d'inquiétantes et inacceptables. Le pays demande aux Nations Unies qu'une enquête soit menée auprès des autorités serbes.
Et quelle réaction justement en Serbie ?
Les services secrets serbes ont catégoriquement démenti l'information, de même que la police. Pour le BIA, Amnesty International se met au service de groupes de pression. Notons que l'ONG a mis en ligne un mode d'emploi pour vérifier si son téléphone est infecté par le logiciel. On ne sait pas pour le moment le nombre d'activistes et de journalistes serbes ayant effectué la vérification.
Laurent Rouy à Belgrade pour RFI. Merci beaucoup. Et une fois n'est pas coutume, question d'environnement nous emmène ce matin en reportage. Nous sommes en Colombie, dans la vallée du Cauca, dans le sud-ouest du pays. Imaginez pour paysage plus de 230 000 hectares de plantations de canne à sucre autour de la ville de Cali pour produire du sucre, évidemment, mais aussi des acides pour l'agroalimentaire et de l'éthanol pour les biocarburants. Cette puissante agro-industrie née il y a plus de 150 ans, à l'histoire liée à l'esclavage et à la colonisation, est aujourd'hui le moteur économique de la région, mais elle est aussi très décriée pour son impact social et environnemental. Reportage, Lucille Gimbert.
Autour de nous, au nord-est de Cali, des champs de canne à sucre à perte de vue. Monté dans un calambuco, une sorte de calèche tirée par un tracteur qui servait autrefois à transporter les travailleurs de ces plantations, un guide promène une poignée de touristes. Au bout d'une parcelle, il pointe la végétation tropicale dense que l'entreprise sucrière Providencia a replantée le long de la rivière Amaime. Oriana Garcés est chargée de communication pour Asocaña, l'association qui regroupe les 12 entreprises exploitant la canne à sucre dans la région.
Ce sont des zones que nous restaurons en plantant des arbres locaux, des bambous, des arbustes, pour que cela attire les animaux de la région. On parle de corridor écologique, car ces petites franges de forêt viennent se connecter à d'autres reliquats de végétation, au bord des rivières, entre les terrains. On veut aussi les connecter aux zones humides, très importantes pour les oiseaux. Et les mammifères.
Restauration écologique, conservation de bassins hydrographiques dans les montagnes autour, centre de recherche et d'innovation, les grandes familles historiques de la canne à sucre dans la vallée du Cauca assurent qu'elles ne lésinent pas sur les moyens pour réduire l'impact de leur activité sur l'environnement. Claudia Calero, présidente d'Asocaña. Dans toutes nos cultures, nous utilisons des systèmes d'arrosage de haute technologie qui nous ont permis de réduire de 50% la consommation d'eau ces 10 dernières années. Cela fait plus de 40 ans que nous contrôlons les ravageurs de manière biologique. Nous n'utilisons aucun pesticide. Et dans nos processus de production de l'éthanol, par exemple, nous récupérons les vinasses, c'est-à-dire les résidus liquides de la distillation, pour fabriquer des engrais organiques pour nos champs. Utilizamos en
nuestros campos.
Tout ça laisse dubitatif Mario Pérez. Ce sont des chants de sirènes pour laver leur image, rétorque cet économiste à l'Institut Sinara de Cali. Pour ce spécialiste de la canne à sucre, après des décennies de mauvaises pratiques, le secteur a une dette environnementale colossale.
En s'étendant dans la vallée, la monoculture de canne à sucre a détruit la forêt sèche tropicale. Il ne reste que de tout petits morceaux de forêt. Et puis pour faciliter la coupe et augmenter la productivité dans les raffineries de sucre, on brûle encore la canne avant la récolte. C'est beaucoup moins le cas, mais cela se fait encore sur 40 000 hectares. C'est mauvais pour la biodiversité et les cendres causent des maladies respiratoires.
Au-delà des conséquences environnementales et sanitaires, les barons de la canne à sucre ont aussi accaparé les terres au détriment des populations autochtones d'abord, puis de l'agriculture familiale des descendants d'esclaves, ce qui alimente de violents conflits jusqu'à aujourd'hui.
Question d'environnement et notre reportage en Colombie, bientôt 7h30 en temps universel et sur la radio du monde. L'info continue, ne partez pas, le journal dans une minute. À tout de suite.
Sans cesse, nous nous battons pour protéger les journalistes. Sans limite, nous nous battons pour contrer la propagande. Sans jamais reculer. sans jamais abandonner. Sans frontières. Mais pas sans vous. Nous avons besoin de vous pour défendre la liberté de la presse et votre droit à l'information. Faites un don sur rsf.org. Reporters sans frontières, fight for facts.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Qui est cette femme? Pourquoi a-t-elle tué et dépecé sa cousine? Le sait-elle elle-même? Dans L'Amante anglaise, Marguerite Duras s'est inspirée d'un fait divers. Face au public, sur la scène du théâtre, Sandrine Bonner joue le trouble et l'ambiguïté dans chaque virgule, dans chaque silence. Folle ou pas?
De vive voix, avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.